suis Pascal Solière et c'est l'épisode 33 de ITcast du 8 juillet 2016. Aujourd'hui, un épisode en deux parties. Dans un premier temps, Stanislas et moi faisons un tour rapide de l'actualité avec les nouveautés sécurité de Windows 10 Anniversary Update, Windows 10 OnVDI dans Azure grâce à Citrix, un outil de migration d'Azure classique vers ARM, des conteneurs Windows qui arrivent dans ACS, et enfin, des outils SysInternals qui débarquent dans Nano Server. Dans une deuxième partie, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Guimonet, fondateur et animateur de la communauté AOS, AOS pour Azure Office 365 SharePoint. Et Patrick va vraiment vous donner envie de participer à une des communautés les plus actives sur les technologies Microsoft. Rendez-vous fin juillet pour le prochain épisode. Et en attendant, tout de suite, les news avec Stanislas. Nous revoici avec Stanislas. Salut Stanislas.
Salut Pascal, bonjour à tous.
Pour un nouvel épisode estival de ITcast, on va parler de Windows 10, on va parler d'un partenariat avec Citrix, on va parler également d'Azure, d'un outil de migration qui a été rendu disponible récemment dans Azure. On va parler également de containers, et avec une annonce toute fraîche de la semaine. Et puis, on terminera avec une annonce qui me plaît plutôt pas mal, qui concerne Nano Server. Donc, Stanislas, je vais commencer avec la partie Windows 10, si tu le veux bien.
Allez, c'est parti.
Alors, on a annoncé récemment donc, la date de disponibilité de Windows 10 Anniversary Update. Donc, on sait qu'on a un mode de sortie maintenant de Windows 10 qui va se passer à peu près deux fois par an, hein, grosso modo. Donc on a eu la version initiale en juillet 2015, on a eu la version de novembre 2015 qui s'appelait la 15-11, d'où son nom, hein, novembre 2015. Et donc la prochaine version va sortir le 2 août, qu'on appelle l'Anniversary Update parce qu'elle sort un an après à peu près la version initiale. Donc on ne peut pas confondre deux dates qui sont la date du 29 juillet qui marquera la fin de la gratuité du passage de la migration en fait, de Windows 7 et Windows 8.1 à Windows 10, et puis le 2 août qui sera la date de disponibilité de la nouvelle version de Windows 10, l'Anniversary Update. Donc il y a eu plusieurs articles publiés sur les nouveautés de cette mise à jour anniversaire. En gros, si on veut résumer les mises à jour concernant Windows 10 dans cette Anniversary Update, on peut dire qu'il y a une grosse partie concernant la sécurité.
Ouais, gros push sur la sécurité, effectivement.
Ouais, qui nous intéresse particulièrement. Bon, il y a effectivement aussi des modifications cosmétiques plutôt intéressantes, mais ce qui nous intéresse, c'est un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Donc, en termes de sécurité, alors déjà, il y a des choses qui ne se voient pas. Comme on a déjà parlé hein, de la sécurité basée sur la virtualisation, qui utilise les technologies SLAT des processeurs récents pour isoler des portions de mémoire sensibles. Comme Credential Guard et Device Guard. Credential Guard pour les secrets liés aux sessions des utilisateurs et puis pour lutter contre les malwares qui font du vol de hash de mot de passe ou de jetons de Kerberos. Et puis Device Guard qui permet d'établir des listes blanches de ce qu'on peut exécuter sur une machine ou des listes basées sur des critères basés sur de la signature de code. Il y a une troisième chose qui va être isolée par ce techno de virtualisation matérielle, c'est maintenant Windows Hello, donc le code sensible qui va donc gérer l'authentification biométrique par Windows Hello va être également protégé par VBS, donc la Virtualization Based Security. Voilà, ça avance petit à petit, il y aura certainement d'autres composants sensibles de l'OS qui seront protégés de cette façon à l'avenir.
Tant que tu es sur Hello, je crois qu'il y a une petite nouveauté, entre autres, sur la version Anniversary. L'optique, elle est de simplifier son usage de Hello, donc de le rendre plus facile à déployer et puis à gérer, être mobile. Et qu'en fait, on a sorti Windows 10, on va dire, il y a un an à peu près. En gros, les deux technos qui étaient relatives à cette identité, ben on avait Microsoft Passport et Windows Hello. D'accord, c'était deux composants qui allaient ensemble. et qui est aligné par rapport à ce qu'on appelle FIDO, FIDO 2, pour tout ce qui est authentification multifacteur. A priori, dans la version anniversary, on cherche encore à pousser encore plus cette chose-là. Hein. Enfin, c'était l'objectif à l'origine de Hello, c'était d'essayer de supprimer à terme les mots de passe en les remplaçant par effectivement le code PIN, de la biométrie, en facteur additionnel. Et donc l'idée, c'était de pouvoir être extensible dans le futur. Donc, ce qu'on a annoncé a priori avec l'extension de la famille Hello dans cette prochaine version de Windows 10, c'est en gros détendre les équipements qui peuvent être utilisés pour faire l'authentification entre guillemets double facteur, au-delà de simplement la partie biométrique, c'est-à-dire lecteur d'empreintes ou reconnaissance faciale ou reconnaissance de l'iris. On va pouvoir déloquer avec Windows Hello ce qu'on appelle le Companion Device Framework, utiliser un périphérique additionnel qui servira de facteur additionnel d'authentification. Si on n'a pas, par exemple, un PC avec une caméra ou un lecteur d'iris ou un lecteur d'empreintes, on va pouvoir utiliser, en fait, déloquer le PC avec un équipement en compagnon à Windows Hello. Donc ce sera soit un téléphone, soit un objet qu'on pourra porter. Je pense qu'on pense derrière des choses comme le Band ou des choses comme ça. Soit une clé USB, soit une carte, une smart card, des choses qui sont assez classiques. Donc c'est un petit peu l'idée. Je ne sais pas si tu te souviens des premières démonstrations de Windows 10
Mais oui,
en
on s'en
public.
souvient tous.
Et notamment TechEd qui avait lieu à Barcelone en 2014, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 2014, c'était qu'à 2014, vu que
Ouais, c'est possible.
j'avais parlé avec Arnaud là-dedans. Il y avait une démo à l'époque qui nous avait un petit peu marqué, qu'on aurait voulu reproduire, mais qu'on n'a pas pu. Hein. C'était en fait de pouvoir arriver avec ton téléphone, alors là c'était un Windows Phone à l'époque, hein, d'arriver avec le téléphone en fait, et via une sorte d'appairage Bluetooth en fait, de pouvoir déloquer, entre guillemets, avec son device téléphone, la session Windows, sans avoir à taper un mot de passe ou autre. Et puis en fait, on n'en avait plus entendu parler de cette fonctionnalité. Et vu ce que je viens de dire, et vu ce qui est cité dans les articles que tu mettras dans les liens associés à ce podcast, il semblerait que ce soit de retour cette fonctionnalité-là, qui peut-être n'était pas à l'époque facilement implémentable avec des contraintes, etc., et qui désormais aujourd'hui devrait être disponible dans cette fameuse anniversary après.
Ça fait également penser à une technologie de Intel qui repose un peu sur le même principe d'utilisation de facteurs externes au logon dans Windows, qui s'appelle le Intel Authenticate, et qui fait l'objet d'une vidéo sur notre site MS Experience, donc pour ceux que ça intéresse.
Donc voilà, ça vaut le coup de jeter un œil sur Hello, il y a pas mal de choses. À noter, c'est que, je sais pas si tu l'as dit, aujourd'hui on est à peu près à une estimation de 350 millions de périphériques qui sont sous Windows 10. Donc on est sur une courbe qui est assez en phase avec ce qu'on avait prévu. C'est tout
On
pas
est à
mal.
peu près à un tiers de l'objectif.
Exactement, on est à un tiers de l'objectif. Et pour en revenir sur la partie Windows Hello, aujourd'hui, nous on l'a déployé sur à peu près tous les employés Microsoft internes, hein, pas les extérieurs, etc. Et donc on a un case study qui est disponible. Pareil, je pense que tu mettras dans le lien avec l'article. Qui explique un petit peu comment on l'a utilisé et notre implémentation, notre utilisation de Hello. Alors nous, c'est Hello for Business, hein, parce qu'on est dans du, on n'est pas sur un équipement personnel avec juste une authentification Hello pour protéger les credentials de Microsoft Account ou local. Et donc nous, on utilise derrière effectivement tout ce qui est notre utilisation de Windows Hello chez Microsoft IT, en tout cas, utilise notre abonnement Azure Active Directory, Azure AD Connect, qui donc du coup projette notre identité à destination d'Azure AD. Et ce qu'on utilise derrière, donc on a effectivement des clients Windows 10 avec des TPM. Donc Windows 10, le minimum, enfin nous c'est l'update de novembre, on est toujours à jour sur la dernière version. Et on a derrière, pour la partie, en termes de clés, soit on utilise des contrôleurs de domaine Windows Server 2016, soit l'Active Directory Certificate Services pour tout ce qui est enrollment des certificats avec Intune et SSCM édition 15.11.
Ok, donc on a également des nouveautés sur Microsoft Edge, donc le navigateur numéro 2 de Windows 10. Première nouveauté qui n'est pas typiquement de la sécurité, c'est l'implémentation des plugins, des add-ons. Et ça, pour moi, ça rend le navigateur tout d'un coup intéressant, parce que ça peut nous permettre d'exécuter des plugins. Alors on a un nombre restreint pour l'instant de plugins. Alors comment ça s'installe par le store de Windows 10, hein, les plugins. Il y a une page qui les présente tous, mais quand on clique sur l'installation d'un plugin, ça nous redirige vers le store de Windows 10, qui nous le télécharge et qui nous l'installe dans Edge. Par exemple, moi j'utilise régulièrement AdBlock Plus pour bloquer les publicités sur certaines pages, et puis il y a LastPass également qui est disponible comme plugin. Donc on retrouve les grands plugins les plus utiles et les plus utilisés dans les autres navigateurs depuis des années, ce qui est plutôt sympathique. Donc en termes de sécurité également, Edge a été pas mal revu en termes de sécurité. Tout ce qui est sandboxing a été amélioré, notamment le parsing des fontes, des polices de caractère a été isolé dans un mode sandbox. On sait qu'il y a eu pas mal d'attaques par le passé sur des fontes incluses dans des pages web avec des formats malveillants, disons. D'autres améliorations au niveau de ASLR et de Control Flow Guard pour limiter également tout ce qui est injection de code et corruption de mémoire dans le navigateur. Idem au niveau de la protection des plugins. Et puis voilà, globalement, on se protège, on a protégé Edge contre la plupart des attaques les plus courantes. Bon, y compris avec Flash également, je vois que Flash a été isolé en dehors du navigateur pour que tout ce qui, évidemment, toutes les attaques qui sont nombreuses, hein, qui attaquent Flash, soient isolées du navigateur lui-même. Donc Windows Hello, tu en as parlé.
Est-ce que tu as parlé de Edge également, du travail qui a été fait a priori pour optimiser la consommation électrique?
Ah non, j'en ai pas parlé. Oui, j'en ai pas parlé. C'est pas de la sécurité, mais effectivement, il y a eu des études très sérieuses qui ont été faites avec des machines qui ont tourné des heures et des heures avec des mesures de consommation électrique liées au navigateur. Et il s'avère que Edge consomme beaucoup moins d'électricité que Chrome, par exemple. Ouais. Sur un PC, donc la durée de vie de la surface en question, des machines en question, était nettement prolongée. Donc bon,
okay. C'est assez rigolo de reparler à nouveau de consommation électrique. C'est un thème qui était très à la mode à l'époque où sortit Windows 7. Si vous vous souvenez, il y avait dans Windows 7, on a intégré des fonctionnalités pour la gestion assez avancée de l'énergie avec la fameuse ligne de commande Power CFG. Qui permettait de paramétrer finement la consommation électrique des différents équipements de l'ordinateur. Et à l'époque, on parlait de Green IT. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était un petit peu le mot tendance à l'époque. Le Green IT, il fallait le mettre dans toutes les slides et dire qu'on était plus économe pour la planète, blablabla. Bla, bla. Et puis ça s'est, bon, bah, comme toute mode, hein, ça s'est un petit peu essoufflé. Les gens trendy sont passés à d'autres mots-clés. Et là, finalement, qu'on revienne sur des bases, hein, qui sont la consommation électrique, l'optimisation de toute la consommation électrique par les développeurs, c'est plutôt assez intéressant, d'autant que plus les équipements sont mobiles, plus il y a besoin d'autonomie. Et même si on a des équipements qui sont de plus en plus puissants, bah, avoir un code qui est optimisé pour moins consommer versus un autre, bah, ça peut avoir sur les applications fréquemment utilisées, ça peut avoir un vrai impact sur la durée de vie des batteries effectivement d'un équipement. C'est assez intéressant parce qu'effectivement il y a donc à l'époque de l'abbé quand on parlait de Green IT, c'était la grande mode. Nos deux Eric Mitlet et Eric Vernier parlaient pas mal de ces choses-là à nos clients. Et puis depuis, bon bah voilà, la mode a un peu changé, il fallait parler d'autre chose. Et du coup, effectivement, il y a peut-être moins globalement ce message auprès des développeurs d'essayer effectivement d'optimiser un peu leur code. Hier soir, j'ai discuté avec une personne qui avait testé une application d'un de ses clients pour évaluer si effectivement la plateforme web elle scalait bien, etc. Et m'expliquer qu'en fait la page d'accueil faisait 19 mégas à charger, quoi.
D'accord.
Ça fait partie aussi des choses où, dans l'optimisation, voilà, quoi.
Ça, c'est un développeur qui est développé derrière une fibre optique, quoi.
Oui, puis enfin, globalement, je pense que les développeurs ont déjà assez peu de culture sécuritaire, par exemple, de faire du code sécurisé. Mais faire du code qui est optimisé pour moins consommer d'énergie, c'est pareil, ça fait pas partie des priorités, entre guillemets. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut aller vite et faire de la fonctionnalité d'un tiers de l'arigot. Donc l'artisanat ou le craftsman development, développeur, bah, il laisse place à l'industriel, quoi. Donc faut produire, et puis ben, si c'est pas bon, on corrige au fur et à mesure, quoi. Mais donc c'est bien de voir qu'il y a des gens chez nous qui sont penchés sur le problème, hein, pour essayer de faire en sorte que ça consomme un peu moins.
Et puis quand on consomme moins, c'est qu'on consomme moins de ressources. Et donc ça veut dire aussi que la machine est plus disponible et moins chargée par quelque chose qui consomme trop de ressources en termes de RAM, de CPU, etc. Avec ce dont on vient de parler, Stanislas, on a surtout parlé de ce qui se passe avant les attaques et donc des moyens d'éviter les attaques. Cela dit, les attaques, il arrive malheureusement qu'elles arrivent, et dans ce cas on a inclus dans Windows 10 donc un outil supplémentaire qui va vous permettre de détecter les éventuelles attaques et de faire quelque chose et de réagir en cas d'attaque. Donc ça s'appelle Windows Defender ATP, comme Advanced Threat Protection, donc protection avancée contre les menaces. Et c'est un produit donc, qui est composé de trois parties, trois grands blocs, hein, trois grandes fonctionnalités. La première partie, ben, c'est la partie cliente, c'est qu'est-ce qu'il y a dans Windows 10 lui-même sur vos postes. Sur ces postes, eh ben, il va y avoir le fameux anti-malware qui s'appelle Windows Defender. Et en plus de ça, une partie cliente qui va être en fait un genre de capteur de comportement, capteur comportemental, qui va essayer de détecter des comportements anormaux ou qui varient un petit peu de la norme qu'on connaît, etc. Donc c'est construit dans l'OS à partir, c'était déjà dans les build insider à partir de la build 14.332, donc c'est assez récent et ça sera effectivement en version finale dans la version de cet été, l'Anniversary Update. Ça s'active quand on va s'enrôler dans le service. Donc Stanislas, il y a un programme, hein, tu as vu tout à l'heure, il y a un programme
bêta ou preview
qui est disponible. Ouais. On peut s'inscrire pour tester en preview ce programme. Et donc, ces agents qui sont sur les postes remontent des logs, des événements de sécurité à un service central. Ce service central, il se trouve dans le cloud, évidemment. Ça s'appelle le Cloud Security Analytics Service. Et c'est ce service qui va analyser l'ensemble des données qui vont remonter des points des différents endpoints, des différents postes Windows 10 qui seront dans votre organisation et qui remontent tous leurs logs, leurs données historiques, etc., etc. Donc là-dedans, évidemment, avec avec ce qu'on appelle communément la puissance du cloud, on va faire de la big data, etc., etc. On va pouvoir traiter ces logs et en déduire des indicateurs d'attaque, des choses qui seront suspectes et qui pourront être considérées comme des indicateurs d'attaque. Et donc donner aux clients des rapports et des moyens de remonter à partir d'indicateurs d'attaque à la source, c'est-à-dire par exemple identifier une machine qui va être potentiellement attaquée, revenir sur cette machine, revenir sur l'historique des événements relatifs à cette machine pour essayer de voir ce qui s'est passé. Et évidemment y remédier par la suite. Le troisième composant, ça va être... donc j'ai pas dit, hein, sur ce Cloud Analytics Service, ça va être en fait un tableau de bord et des outils web inclus dans le portail Azure. si je ne m'abuse.
Je ne sais pas si c'est porté Azure.
C'est pas dans Azure?
Les captures qu'on a, ça ressemble beaucoup à de l'Azure Security Center pour ceux qui ont pu le tester. Mais quand on regarde le logo en haut et le nom, il y a écrit Windows Security Center. Donc c'est possible que le service soit un service, entre guillemets, séparé de type SaaS. Pas forcément dans le portail Azure, mais probablement peut-être sous la forme d'un service additionnel à côté. Peut-être aussi dans le futur intégré à Intune. Mais je pense que pour l'instant, c'est un portail séparé qui doit forcément tourner d'ailleurs sur les technos d'Azure. Mais
on reviendra dessus quand on l'aura testé à fond.
Exactement. Ouais.
Et puis, troisième composante, et qui est quand même la plus importante de l'histoire, c'est la communauté Microsoft autour du renseignement, autour des recherches sur la cybercriminalité et tout ça. On a des équipes spécialisées, des experts spécialisés dans ces domaines-là. Et qui analyse en permanence l'ensemble des données remontées par tous les points de remontée qu'on peut avoir dans le monde. Alors ça peut être effectivement, ça sera effectivement les postes Windows 10, mais pas que. Il y a d'autres sources de données intéressantes comme tous les données remontées par les antivirus, remontées par Hotmail, etc. Et la corrélation de tout ça permet de définir des indicateurs de compromission. Qui permettent d'identifier les compromissions qu'on va pouvoir rencontrer chez nos clients, de les identifier de façon assez fiable. Donc tout ceci, évidemment, c'est dans une optique d'avoir une boucle de feedback permanente, c'est-à-dire que le système s'alimente de façon vertueuse avec l'expérience, avec les connaissances qui sont enrichies en permanence. Donc Windows Defender ATP comme Advanced Threat Protection.
Ça nous fait un acronyme quand même en 5 lettres, ce qui arrive au top acronyme, hein, les plus riches. c'est plutôt. Ça va être long à dire ça. Hein. Ça fait Windows, WDATP.
Oui, dans les articles, ils mettent les 5 lettres, mais bon.
Voilà. ATP. On continue, je crois qu'on parle également de protection de l'information dans Windows 10 Anniversary Update.
Oui, alors on a parlé depuis le début de Windows 10 hein, de quelque chose qui s'appelle EDP, Enterprise Data Protection, qui permet de faire de l'isolation de données professionnelles sur un poste personnel, donc par du chiffrement de type EFS, des données professionnelles sur le poste personnel, en mode Bring Your Own Device, et puis qui permet également de faire de l'isolation entre applications dites d'entreprise, et les applications personnelles, notamment interdire le copier-coller entre les deux, pour éviter les fuites d'informations. Donc ça va être enfin disponible de façon officielle dans l'Anniversary Update. Ça l'est déjà depuis quelques builds insider récentes, et ça change de nom. Donc à l'occasion de sa sortie officielle, ça va s'appeler Windows Information Protection. WIP. Que dire de plus à l'Anniversary Update ? Il y a eu un effort récent sur les certifications. Enfin, un effort, je dis récent, mais non, c'est pas récent, c'est un effort continu depuis la sortie de Windows 10, comme pour tous les OS Windows. L'effort de certification est constant pour certifier avec les critères communs et avec les critères américains de type FIPS nos produits, avec donc des profils de certification documentée que vous allez pouvoir trouver sur le site de Microsoft. Donc, par exemple, si je regarde le dernier en date, début juin 2016, donc on a eu la certification FIPS 140-2 Level 1 pour Windows 10. Et le 24 juin, une certification critère commun dont le titre est Mobile Device Fundamentals Protection Profile 2.0 pour la version 2015-011, donc la version de novembre 2015.
Alors, rappelons que FIPS, c'est pour c'est les standards pour les organisations gouvernementales américaines, principalement, alors que les critères communs, eux, sont des choses qui sont entre guillemets multi-région, dans le sens où quand un pays faisant partie de l'association des critères communs valide ou un organisme dans un pays valide un système ou une solution avec certains critères communs. Du coup, c'est accepté également par les autres organisations dans les autres pays qui adhèrent aux critères communs.
Donc il y a en cours pour l'instant une certification critères communs pour sur un profil IPsec VPN client. Et puis une autre en cours sur pour FIPS du FIPS 140 pour et ces deux certifications en cours concernent la version novembre 2015 de Windows 10. On peut dire également qu'il y a eu quatre certifications critères communs à cette date en 2016 déjà. Il y en a d'autres qui arrivent donc. Il y en a eu 5 en 2015. Ce qui montre quand même une accélération dans la certification, puisque le nombre moyen de certification par an jusqu'en 2014 était de 1. Il variait entre 0 et 1.
C'est long de passer à un critère commun. Ça a
Ouais.
toujours été long. Après, ça dépend, mais ça dépend, c'est des choses qui sont faites non pas par Microsoft, mais par des tiers. Ça peut être le BMSI, par exemple, le BSI, pardon, en Allemagne. Ça peut être, je crois que c'est l'ANSSI en France, si je dis pas de bêtises, qui le fait.
C'est bien possible, oui.
Voilà. Donc, effectivement, voilà, ça prend du temps. Bon, ben on a vu pas mal de choses
Donc,
là sur Windows
voilà,
10,
c'est l'anniversaire
l'anniversaire Update
update,
Pascal,
ouais.
alors très très sécurité, hein, mais c'est ce qu'il y a dedans. Hein, donc on dit ce qu'on a à dire.
Voilà.
On continue toujours dans le monde on va dire, de l'environnement de travail et de la mobilité, avec pas mal d'annonces qui ont eu lieu lors de Citrix Synergie 2016.
Oui, c'est un événement qui avait lieu au mois de mai, hein. Donc on a annoncé un partenariat avec Citrix, fort intéressant, et qui va franchement aider nos clients à aller vers Windows 10, même s'ils n'ont pas aujourd'hui un projet bien défini de migration ou des postes qui seraient compatibles, etc. Donc ce partenariat consiste en ce que Citrix donc choisit Azure comme cloud de prédilection pour cette nouvelle stratégie dans le cloud. Donc que ce soit pour ses propres logiciels et puis les services en collaboration avec Microsoft pour Windows 10 comme on va le voir. Donc l'idée c'est de fournir des solutions de type VDI, basées sur des solutions Citrix mais hébergées dans Azure. Donc ce qui veut dire que si vous avez des nécessités de passer dans Windows 10, vers Windows 10 tout en conservant des environnements de travail, vos environnements de travail actuels, donc peut-être dans des versions plus anciennes de Windows, des Windows 7 ou quelque chose comme ça, vous pouvez tout à fait le faire avec ces solutions de type VDI. Donc on a le beurre et l'argent du beurre, hein, on garde l'ancien et on a en même temps le nouveau. Ça permet de passer dans des environnements Windows 10 de façon souple, où les nouvelles applications seront dans un environnement VDI et puis les anciennes resteront dans l'environnement actuel. Donc voilà, pas mal pour la migration vers Windows 10 en douceur. Ça concerne les licences.
Les clients qui ont acheté la software assurance, la Windows
Voilà.
Software Assurance, sur une base par utilisateur.
La software assurance, voilà, c'est important en mode utilisateur, sur une base utilisateur. C'est-à-dire que
Voilà.
l'utilisateur a droit à sa machine en VDI
Exactement. Et donc ils
dans
vont
le
pouvoir
cloud.
hoster leur Windows 10 entreprise dans la CBB, hein, la courante Branch for Business. L'image sera disponible au travers de Xen Desktop VDI, pas de la solution Xen Desktop VDI. Et pour ceux qui ont une console Azure en mode un peu préliminaire, ils ont vu apparaître effectivement une petite zone qui s'appelle Windows 10 VDI by Citrix. Donc je pense que c'est cette partie-là. Voilà.
Il y aura également de l'Office 365 qui sera proposé via cette virtualisation et également EMS, donc EMS qui contient notamment Intune, donc le MDM de Intune de Microsoft pour gérer ses postes et ses postes virtuels.
N'oublions pas l'historique également de Citrix dans le monde de la virtualisation de bureaux et donc des serveurs de terminaux type RDS enrichis par leurs couches et leurs fonctionnalités. On a un prochain Windows Server qui va arriver, le Windows Server 2016. Et dans cette conférence, en fait, Citrix a également annoncé que toute la partie XenApp, Xen Mobile, ou l'utilisateur Xen Mobile, allait pouvoir s'appuyer également sur les solutions Citrix installé sur du Windows Server 2016, et donc profitant des apports de 2016, hein, donc c'est-à-dire Bon, des améliorations sur la partie virtualisation des éléments graphiques sur la plateforme RDS, tout ce qui est également autant d'identité, gestion des accès sur site ou dans le cloud. Donc avec tout à l'heure on parlait de VDI et on parlait de Office 35, donc c'est-à-dire en utilisant une intégration assez forte avec Azure Active Directory. Et puis ils vont profiter également de certaines capacités comme le nano serveur par exemple pour que certains rôles en fait soient avec une surface d'empreinte réduite, etc. Ils sont pas trop détaillés après tout ça, mais on se doute bien que Citrix depuis la nuit des temps, c'est-à-dire je crois NT351, je crois, NT3, font des compléments à Windows pour l'enrichir sur RDS. Donc ça s'arrête pas. Ils font effectivement le virage vers le cloud, mais ils vont continuer également à améliorer leur solution sur la plateforme entre guillemets serveur telle qu'on la connaît.
Et donc Stanislas, tu voulais nous parler d'un outil de migration concernant Azure ?
Oui, tout à fait, Pascal.
Alors sans non, transition, s'il y a un petit, une transition quand même très travaillée, là on est dans le cloud, et justement à propos du cloud et d'Azure.
ceux qui font l'Azure savent que l'an dernier, en fait, on a eu un changement assez structurant dans la plateforme Azure au niveau de l'infrastructure de service, mais globalement au niveau de la plateforme globale. On est passé d'un mode qu'on appelait le ASM, ou le mode classique désormais qu'on appelle classique, donc ASM, Azure Service Manager, avec l'ancien portail bleu et les anciennes API, à un nouveau mode qui s'appelle ARM, Azure Resource Manager, avec un nouveau portail, des nouvelles API et une nouvelle façon de fonctionner. Donc ARM, Azure Resource Manager, quand on prend une machine virtuelle ASM versus une machine virtuelle ARM, fondamentalement, ce n'est pas les mêmes briques qui sont les mêmes composants qui les constituent. Et donc, tu as des réseaux virtuels classiques, du stockage classique versus des réseaux virtuels ARM, ou modernes, ou actuels, stockage moderne actuel. Donc, comme toute migration, hein, il arrive un moment, de toute façon, il faudra, entre guillemets, si possible, se débarrasser de l'ancien modèle, parce que le nouveau a quand même beaucoup plus d'avantages en termes de souplesse, de délégation d'administration, de tagging, etc. Et donc, tous nos clients qui avaient déployé de l'ASM commençaient à nous demander est-ce que je vais pouvoir passer mon classique en mode Resource Manager, donc passer de l'ancienne version à la nouvelle, entre guillemets, de la plateforme. Et, parce qu'il y a toujours des choses qui tournent et on a envie de profiter des nouveautés. Hein. Et on n'avait pas jusqu'ici vraiment de bonnes solutions de migration. Et donc là, c'est en train d'arriver, on commence à avoir des fonctionnalités qui vont permettre en fait de migrer de manière assez transparente avec un downtime relativement très faible, mais l'idée c'est de ne pas en avoir, hein, de pouvoir migrer en fait des déploiements de machines virtuelles dans, par exemple, des réseaux classiques et de les amener en fait dans des réseaux ARM. Donc l'idée globalement à terme de toute façon c'est de pouvoir prendre n'importe quelle ressource en mode ASM et la transformer en mode ARM. Donc là, pour l'instant, ils ont commencé, entre guillemets, les outils principalement sur la partie machine virtuelle. Donc, on va dire la majorité des workloads vont plutôt bien se passer. Il y a quelques fonctions qui sont aujourd'hui pas encore supportées, donc ça viendra probablement par la suite. C'est assez bien documenté sur ce qui est les fonctionnalités qui sont. Qui ne sont pas encore migrables et les configurations qui ne le sont pas encore, mais ça va approcher, quoi. Ça va se faire de plus en plus.
C'est pas mal du tout dans les cas qui vont bien se passer, c'est-à-dire quand on est déjà par exemple sur un VNet, ce genre de choses-là, une machine virtuelle qui fonctionne actuellement en ASM peut passer en ARM vraiment sans s'arrêter, sans interruption de service. Et dans la vidéo, alors la vidéo elle vaut ce qu'elle vaut parce qu'elle est pas très, elle est pas techniquement très pointue, mais en tout cas elle montre au moins le mécanisme dans ce cadre-là. Mm-hmm. Et il montre bien qu'en fait, quand on migre, on va créer à côté une nouvelle description ARM d'une machine virtuelle qui existe déjà. Ouais. On peut accéder en fait pendant un temps intermédiaire, le temps de la migration, quoi, à la machine virtuelle dans les deux modes. Et ensuite, on enlève le mode ASM une fois qu'on est content avec le mode ARM. Quoi. C'est assez intéressant comme mode de fonctionnement, en tout cas dans les cas qui vont bien.
Ouais, il faut vraiment bien lire toute la documentation parce que effectivement, c'est la première, on va dire, entre guillemets version, je ne veux pas parler de version, mais c'est la première application réelle de cet outil de migration qui a permis effectivement de faire ces migrations de manière assez simple normalement. On est encore à la première itération, donc tout n'est pas supporté à 100%. Le bon côté, c'est que si une migration ne se passe pas bien, en fait, il n'y a pas de perte du service, d'indisponibilité, parce qu'en fait, la migration consiste à recréer l'équivalent, entre guillemets, en face, et à déclencher, et une fois que ça marche bien, qu'on en est sûr, de déclencher le switch pour switcher les clients sur la nouvelle plateforme en ARM. Donc, il n'y a pas réellement de risque, mais il faut quand même, je pense, bien lire les liens qui sont donnés dans l'article que tu donneras toi-même, qui détaille effectivement ce qui est supporté pour la migration et un petit peu comment ça fonctionne et quels sont les outils. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, c'est un truc qui va s'accélérer pour envoyer tout le monde à terme sur de l'ARM. Si de toute façon on fait du déploiement aujourd'hui de nouveaux workloads, faites-le directement en ARM. Mais bon. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a, on met pas le couteau sous la gorge à nos clients. Hein. Dire les endpoints et les API du mode ASM vont encore perdurer un certain temps. Donc, y a pas urgence dans la demeure. Il y a le temps de se poser les bonnes questions, de voir si effectivement ça peut être migré, pas migré. Et puis, si c'est pas migré, de voir comment on peut reconstruire.
Donc, nouvelle suivante dans Azure, c'est la disponibilité de ACS, donc les Azure Container Services.
Ça, on l'avait déjà, hein. C'est juste qu'on supporte d'autres types de
Ouais,
conteneurs à l'intérieur.
voilà, mais dans un nouveau mode qui est avec des containers Windows, donc des Windows Server Containers dans ACS. Et donc, ça veut dire quoi, Stanislas? Ça veut dire qu'on va pouvoir déployer des clusters. Soit Swarm, soit DCOS, mais cette fois-ci avec des nœuds qui seront des nœuds Windows Server 2016 qui exécuteront des Windows Server Containers.
Ouais, donc à terme, effectivement, c'est deux technos d'orchestration seront disponibles via Azure Container Service, DCOS, donc qui est fait par Mesosphere, et qui est passé en open source il y a quelques mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça veut dire des clusters gérés par derrière, sous-jacent du Mesos, avec du Marathon, principalement. Et des orchestrateurs à base de Docker Swarm. Aujourd'hui, on est sur donc une version préliminaire, une preview de ce service de container Windows sur Azure Container Service. Et pour l'instant, cette preview ne va supporter comme orchestrateur dans un premier temps que Docker Swarm. Mais à terme, effectivement, il y aura également des COS qui sera ajouté.
Et donc voilà pour ce qu'on voulait vous dire sur Azure. La dernière chose, et puisqu'on est dans les containers Windows, ben on parle un petit peu de nanoserveurs, hein, on pense à nanoserveurs, et dans nanoserveurs, on exécute des petites choses. Et donc, la dernière petite nouvelle, c'est que notre collègue Marc Russinovitch a mis à disposition sur sysinternals.com et live.sysinternals.com des versions nanoserveurs de certains des outils sysinternals. Ça n'a l'air de rien. Mais il y a des outils qui sont toujours intéressants dans la suite sysinternals. Alors comment les identifier quand vous allez sur live.sysinternals.com par exemple? C'est ceux qui ont 64 à la fin de leur nom. Alors la bonne nouvelle également, c'est que ces versions 64 bits nanoserveurs fonctionnent également sur tout Windows 64 bits. Donc c'est pas parce que ça marche sur nanoserveurs que ça ne marche pas ailleurs. C'est l'inverse qui n'est pas toujours vrai. Donc par exemple, vous avez, je sais pas, moi je vois Sysmon 64, Strings 64, Streams 64, Sigcheck pour vérifier les signatures des exécutables,
ouais,
PS Service,
PSKill.
PSKill, bah oui, fondamental PSKill.
Bien sûr.
J'utilise tous les jours pour tuer mon Explorer pour le redémarrer. Non, j'ai pas
Non,
dit.
Pascal, on peut
Non,
plus
je l'ai
dire
pas
ça
dit.
maintenant.
Donc voilà.
Un petit Sysmon, c'est cool ça.
Ouais, PS List pour lister les process. Non, c'est voilà, c'est vraiment sympa. Ça donne le choix, quoi, parce que certes, on peut faire du PowerShell, on peut scripter en PowerShell et c'est très riche, mais on peut aussi utiliser des outils en ligne de commande dans un CMD classique, comme on a toujours fait. Donc ben voilà, Stanislas.
Le petit jour des nouvelles, hein,
Voilà.
qui sont encore assez riches, alors qu'on est pourtant à l'aube de l'été. Hein.
Ouais, alors le calendrier de l'été sera un petit peu chamboulé, hein, donc moi ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la dernière semaine de juillet, donc vraiment tout fin juillet, avant quelques semaines de vacances par la suite qui seront fort bien méritées. Merci Stanislas, et puis bon week-end.
Bon week-end Pascal.
Salut. Pour cette deuxième partie de cet épisode, je renoue avec la tradition de l'invité puisque je reçois Patrick Guimonet. Bonjour Patrick.
Bonsoir, bonjour.
Tu vas bien ?
Très bien, et toi ?
Ben, ma foi, très bien. Et puis je t'ai invité parce qu'on s'est vu physiquement il y a très peu de temps, puisqu'on s'est vu dans la semaine à une soirée organisée à l'occasion d'une alliance, de trois communautés.
Voilà, tout à fait. Donc c'était le premier événement, on va dire, majeur qu'on a fait en commun donc avec trois communautés. Donc moi, je fais partie de la communauté AOS, on va y revenir. Et pour cet événement, on s'était regroupé avec la communauté GUS, donc qui est la communauté autour de la plateforme de données Microsoft, SQL Server, mais aussi plein d'autres outils.
Et voilà, c'est le professionnel data et business intelligence de Microsoft. Ouais. Ouais.
Et la troisième communauté, c'est la communauté azug.fr, donc le user group, le groupe d'utilisateurs Azure en France.
Voilà, représenté par son représentant Marius Zaharia.
Oui, qui, tout à fait.
Voilà, vous avez fait tous les trois. Donc Marius, toi-même, et puis j'oublie...
Jean-Pierre Riel pour voilà. Data Platform.
Voilà, le représentant de GUS. Tous les trois, donc vous avez fait une présentation. Il y avait ce regroupement, cette alliance entre guillemets des trois communautés a eu beaucoup de succès.
La salle était pleine là, chez MS Venture.
Voilà, on avait limité volontairement les inscriptions à une trentaine de places parce que l'amphi est très petit. Hein. On avait invité tout ce beau monde dans nos locaux parisiens de Microsoft Ventures, ouais, Accelerator, pardon, c'est le nouveau nom, hein. Microsoft Accelerator Paris.
Mais j'en profite pour remercier Microsoft parce que c'était bien sympa de nous avoir donné accès, réservé les locaux, etc. Pour ça.
On a profité pour boire un coup ensemble, c'était sympa.
En plus. Et donc, effectivement, c'était l'occasion d'échanger autour de nos préoccupations communes. Donc, il y a un dénominateur commun à ces trois communautés qui est assez évident, c'est le cloud. Mm-hmm. Sachant que Azure, c'est évidemment pure cloud, puisque les gens qui font de l'Azure... on pourrait aussi citer la partie... Azure dans un data center privé, mais bon, c'est quand même assez peu fréquent en France. Bon, on va dire que c'est à 99% pure cloud. Et par contre, nous, les deux autres communautés, GUS et AOS, sont un peu mixtes, puisque c'est des communautés qui viennent de la plateforme on-premise. GUS est côté SQL Server. Nous, j'ai pas encore dit le nom donc de notre communauté. Donc on utilise l'acronyme AOS pour Azure Office 365 SharePoint. Donc le cœur de notre cible, c'est de parler de l'offre collaborative Microsoft et des outils qui sont associés. Donc les principaux outils, bien sûr, qui viennent immédiatement, c'est SharePoint. Donc pour sa version on-prem, SharePoint Online pour sa version dans Office 365. On parle aussi un peu d'Exchange, beaucoup encore plus de Skype, et puis de tout un tas d'autres outils. Donc je ne vais pas faire la liste, mais pour en citer quelques-uns, on parle de OneDrive, on parle de Yammer, on parle de Power BI aussi. Donc toute la panoplie potentiellement d'outils qui sont raccrochés à Office 365.
Et puis les petits nouveaux comme Delve, Planner, ce genre de choses-là.
Voilà, voilà. Donc on a effectivement fait une petite démonstration hier, lors de cet afterwork des principales nouveautés, très rapidement. Mais ce qu'on fait de manière beaucoup plus régulière, c'est des présentations, donc soit... donc on appelle ça plutôt... Donc il y a différents formats dans nos événements. Plutôt un format rencontre, donc ça c'est en général sur Paris, donc ça commence, on en a fait deux cette année, ça commence vers 16h et puis ça se termine vers 20h, donc en fin d'après-midi, pour éviter aux gens de prendre une journée complète hors du boulot. Donc ça a bien marché. Donc lors de ces deux événements, on a eu à peu près sur chacun entre 80 et 100 personnes qui étaient présentes.
Oui, quand même, c'est pas le petit meet-up
Non,
habituel,
c'était,
hein,
c'était vraiment intéressant en termes de représentation des gens qui étaient là. On avait aussi, dès le départ, fait un choix qui s'avère intéressant, c'est qu'on fait à chaque fois une track, alors, quand on le peut, hein, quand l'événement, quand il y a assez de speakers et d'attendees, on fait une track métier et une track technique. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que sur ces technos-là, pour qu'un projet marche bien, il faut un bon mix entre la technique et le métier. On a tendance à dire que de plus en plus, la technique est moins importante que dans le passé, c'est vrai. Cela dit, si il y a un problème technique qui bloque tout, votre projet, il pourra pas décoller, il pourra pas rencontrer ses utilisateurs. Donc, pour moi, c'est la technique est effectivement de moins en moins visible, c'est très souvent un prérequis et quand ça marche pas, on s'en aperçoit très vite. Par contre, sur ces outils-là, ce qui est important, c'est évidemment tout ce qui tourne autour de l'adoption. Donc le fait que les utilisateurs vraiment prennent en main les outils, comprennent à quoi ils servent et à quoi ils peuvent les utiliser. Donc ça, c'est aussi un gros axe dans les projets sur lesquels on travaille et puis dans nos événements, on met ça en avant pour que les gens nous fassent des retours d'expérience et des bonnes pratiques, partage de bonnes pratiques sur voilà comment j'explique à mes utilisateurs pourquoi ils doivent utiliser plutôt tel ou tel outil que tel autre et comment ils doivent s'en servir.
Donc précisons à ceux qui ne te connaîtraient pas que si tu connais si bien le domaine, c'est qu'il y a très longtemps, tu étais chez Microsoft dans une division
Voilà.
que je connais bien.
Voilà. Donc, oui, je peux peut-être effectivement me présenter rapidement.
Ben écoute, vas-y.
Donc, effectivement, je suis tombé chez Micro dans la marmite Office 365. À l'époque, ça s'appelait BIPOS quand j'étais petit. Donc, j'ai fait effectivement 5 ans chez DX, tout près de là où tu travailles actuellement, effectivement. Et ensuite, j'ai fait un petit passage éclair dans une petite société de services qui s'appelle Capgemini, donc un an. Et ensuite, j'ai créé ma propre société qui s'appelle Abalon, où on fait vraiment, on est spécialisé sur l'accompagnement autour de SharePoint et d'Office 365. Donc, on est très focusé sur ces sujets-là. Ça nous permet d'être plutôt pas mauvais, on va dire, sans vouloir se vanter. En tout cas, on connaît très bien les problématiques, puisque tous les clients qu'on rencontre, effectivement, on les assiste et on les aide sur ces technologies-là. Donc, effectivement, dans les deux axes qu'on vient de dire, l'aspect purement technique et aussi beaucoup d'aspects accompagnement métier, aider les gens à ne serait-ce qu'exprimer leurs besoins autour de ces sujets-là. Ou les aider à comprendre toute la richesse qu'il y a dans l'offre Microsoft. Parce que ça, tout le monde le reconnaît. L'offre Microsoft, et en général, et l'offre Office 365 en particulier, est très très riche. Donc l'idée, souvent, c'est plus d'expliquer aux gens par quoi ils doivent commencer, éventuellement pour quelles raisons, dans quelle direction ils doivent aller. Parce qu'ils sont souvent un peu perdus et on les comprend, puisque nous qui passons notre vie là-dessus, sur ces outils-là, à suivre, ne serait-ce qu'à suivre les évolutions, on a beaucoup de travail, rien qu'à suivre voilà, toutes les nouveautés qui sortent très régulièrement des laboratoires de Microsoft à Redmond. C'est pas à toi que je vais apprendre.
Tout à
Il y
fait.
a plein de nouveautés en permanence.
Donc, vous faites des rencontres comme tu as décrit, vous faites également des journées beaucoup plus complètes, beaucoup plus ambitieuses, avec des tracks.
Voilà. Donc ça, c'est le deuxième format, effectivement. Donc là, plus en province, pour l'instant, on en a fait deux aussi cette année. Donc la communauté AOS sous ce nom, cette forme-là, elle a été créée, en fait, on va dire, en janvier. Donc on a fait un événement à Orléans au mois de mars et un événement à
Rennes.
Rennes en juin. Et donc là, effectivement, c'est un format plus large d'une journée où on prend le temps de bien décortiquer, je dirais, les nouveautés, présenter différents aspects, en général, effectivement, les plus récents des différents produits. Et on garde toujours, comme je disais, un œil sur la plateforme on-prem, parce qu'il y a encore beaucoup de clients qui sont évidemment on-prem. Pour nous, c'est naturellement SharePoint et Exchange qui sont les outils que l'on d'où l'on vient. Et puis un focus aussi, voilà, sur toute la partie cloud, donc essentiellement donc Office 365, mais aussi en lien avec Azure, puisque de plus en plus Office 365 soit utilise des briques d'Azure, hein, tout simplement, à commencer par Azure
Par
AD, bien sûr,
VMware,
mais aussi, par exemple, la partie Azure Media Services, c'est le cœur d'un service qui s'appelle Office 365 Vidéo. Donc on voit que Microsoft prend les briques d'Azure, les package d'une certaine façon, et puis en fait un service supplémentaire dans Office 365. Donc ça, c'est un lien très fort qui ne fait que se renforcer entre Azure et Office 365. Et l'autre lien qui est aussi naturel, c'est tout ce qui est développement. Quand on veut faire un développement autour d'Office 365, l'endroit naturel pour... Alors, Office 365, c'est un service SaaS, hein, comme on le sait. Et donc, il y a quand même un certain nombre de limitations, enfin très fortes même, il y a des limitations très fortes sur comment je peux interagir en termes de développement avec la plateforme. Et donc, quand j'ai du code que je dois exécuter qui va interagir avec mon Office 365, l'endroit naturel pour aller le poser, c'est évidemment dans Azure, sous différentes formes. Ça peut être des VM dans Azure, mais ça peut être aussi d'autres services plus en mode passe, etc., qui vont venir interagir avec Office 365. Donc ça, c'est aussi, je dirais, l'autre interaction très forte qu'on a avec Azure, d'où aussi ça donne du sens à ces réunions où il y a plusieurs communautés qui sont présentes, donc du coup plusieurs experts qui peuvent partager leurs expériences réciproques et puis partager ça avec évidemment nos... les gens qui participent à ces événements. Donc ça, c'est voilà, donc on va dire, c'est le programme de l'année passée, enfin des 6 mois passés,
Les six
pardon.
mois passés, mais vous
Ouais.
avez un programme à venir assez chargé, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce que tu peux
Voilà, donc on
dire
a
aujourd'hui?
aussi déjà des choses très 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 formalisées qui sont disponible dès maintenant. Donc, on a un prochain événement qui est prévu dès la rentrée, le 6 septembre à Aix-en-Provence. Donc, sous un format d'une journée, pareil, avec une track technique, une track
Business.
Plus business, voilà, métier, on va dire en français. Aussi des sessions un petit peu orientées vers Azure, etc. Donc, on a la participation de sponsors, de Microsoft aussi, puisqu'on aura un keynote animé par Sébastien Pertus, plus sur l'aspect Office Graph, développement autour d'Office 365. Donc, ça c'est un premier événement. Après, on a d'autres événements qui sont prévus pour s'enchaîner ensuite. Évidemment, on participera. Je dirais au niveau individuel en tant que speaker, mais aussi au niveau communauté au MS Experience, donc qu'on attend avec une grande impatience.
Donc le 4 et 5 octobre prochain
Voilà.
au Palais des Congrès.
Exactement, surtout qu'on aura le plaisir d'avoir Satya Nadella à Paris, ce qui est quand même pas tous les jours.
Exactement.
Donc ça c'est super. Et puis ensuite, on prévoit des déplacements. Donc, on aura en fait un déplacement d'un certain nombre de nos speakers en Afrique du Sud. Donc, on a tissé des liens. Alors, c'est aussi une des caractéristiques très fortes de la communauté AOS, c'est que dès le départ, on a créé une communauté internationale, donc à base francophone. Donc, on a des liens très forts avec nos amis canadiens, les Belges, les Suisses. et évidemment les Français, et aussi l'Afrique du Nord. Donc on a, l'année dernière, faut le mentionner, participé de manière très active à l'organisation d'un SharePoint Days à Casablanca, où j'étais moi-même speaker du keynote. Et on a l'organisation en cours d'un SharePoint Days à Hammamet, donc en Tunisie, le 14 et le 15 octobre. Donc voilà, ça c'est une caractéristique très forte. C'est faire venir en France des speakers internationaux. Donc on a par exemple à la rencontre qu'on avait organisée sur Paris, il y avait un Marocain qui était venu parler, un Canadien, et on a régulièrement voilà, des internationaux qui viennent partager leur expérience. À Aix, par exemple, on aura une MVP autrichienne qui est très connue sur la communauté Office 365.
D'accord.
Et donc, du coup, dans l'autre sens, nous, on aime bien aussi aller à l'étranger, voir ce qui se passe. Et donc, la première matérialisation de ça, c'est effectivement au mois d'octobre, on va aller participer à un SharePoint Saturday qui est organisé à Cape Town, donc en Afrique du Sud. Et certains vont faire ce qui s'appelle la iOS Road Trip, c'est-à-dire que pendant une semaine, en fait, ils vont faire un trajet où ils vont faire un jour sur deux des événements de. Présentation des nouveautés d'Office 365 en Afrique du Sud.
Très sympa.
Ça devrait être très sympa. On a aussi, donc du coup, certains vont rester en Afrique du Sud, d'autres vont partir à La Réunion, parce que c'est grosso modo vu de France, pas très loin, même si je sais que c'est beaucoup de milliers de kilomètres entre les nœuds, mais
tant qu'on reste
voilà.
Dans le même fuseau horaire, tout va bien.
Voilà, on n'est pas trop de décalage horaire. Donc ça, c'est voilà ce qui est prévu au mois d'octobre, novembre. Après, on aura un gros événement qui est prévu, déjà un tout petit peu annoncé, mais vraiment l'intention, en tout cas, de faire un événement sur Paris commun aux trois communautés, sous un dénominateur commun qui est bien sûr, encore une fois, le cloud. Donc ça serait un événement sur les nouveautés du cloud Microsoft. Par les trois communautés qu'on a déjà mentionnées. Et puis pour l'année 2017, on a déjà plein plein d'idées incroyables. Donc à la fois en France donc par exemple, on a déjà de manière quasiment validée, je dirais confirmée, on a un double événement qui sera un jour à Lille et le lendemain à Bruxelles. Donc dans nos amis, chez nos amis du Nord et chez nos amis belges. Donc ça devrait être aussi très sympa. Et on envisage des choses un peu plus loin, donc par exemple des événements en Irlande ou même jusqu'en Inde, puisque, comme je disais, on crée des relations avec des MVP ou des leaders de communautés dans différents pays, et voilà, on a des très bons contacts en Inde, donc on espère bien pouvoir faire un événement jusqu'en Inde. Voilà,
bah,
donc plein de projets.
Un programme particulièrement ambitieux pour une communauté très active. J'avais rarement vu une communauté si active, donc j'ai bien fait de
Voilà.
t'inviter.
Donc évidemment, on aime bien avoir dans tous ces événements des gens de Microsoft avec nous, hein, ça nous fait toujours
Bah,
plaisir. Les
écoute, nous
gens de DX
aussi.
sont toujours les bienvenus. Hein. C'est à noter.
Pour les gens qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas connu auparavant la communauté, donc où est-ce qu'ils peuvent se renseigner, trouver des informations,
Ouais.
savoir où venir vous voir, par exemple?
Tu as raison. Alors, le point d'entrée le plus simple à donner, c'est le site web. C'est http://aos.community, donc en anglais. Et on arrive sur un site qui est en version anglaise ou en version française, suivant les préférences du navigateur. Et
aos.community,
ensuite.
je mettrai évidemment le pointeur
Ouais,
sur le
merci, c'est
site.
sympa. Et en fait, très rapidement, donc on a une présentation évidemment de la communauté, on a un rappel de nos principaux événements à venir. Pour tous les détails en fait sur les événements, on trouve sur le site où on peut aller directement sur Eventbrite, qui est l'endroit en fait où on met systématiquement nos invitations, sachant que
D'accord.
de plus en plus on a tendance à doubler l'événement sur Meetup. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Meetup, donc
Oui.
Eventbrite, Meetup, en général, l'un pointe sur l'autre et l'autre pointe sur l'un, j'ai envie de dire.
Oui.
Donc voilà. Si on cherche directement des événements, on peut aller directement rechercher communauté AOS dans ces deux sites bien connus et on va retrouver nos événements là-dessus. On va trouver aussi sur le site un lien vers les podcasts AOS. Donc on a aussi
oui.
Parlons du plaisir de cousins, notamment de t'inviter Pascal et d'autres évidemment au podcast AOS, donc qui sont un rendez-vous régulier en fait, qui nous permettent de à la fois de partager les nouvelles communautaires et d'interviewer des gens voilà de Microsoft, des gens des partenaires qui travaillent sur ces sujets-là, et c'est toujours des rencontres qu'on essaye les plus variées, les plus intéressantes possibles. Et on trouvera aussi sur le site, alors effectivement, une communauté, comme tu le dis, assez riche. Et pourquoi on est aussi actif, c'est qu'en fait, on a réussi à fédérer, en fait, donc aujourd'hui, je regarde sur le site parce que ça change presque tous les jours, 31 personnes donc, qui s'impliquent vraiment à différents niveaux, mais qui s'impliquent dans la création d'événements, dans le partage de connaissances autour de nos produits. Et cette commune, déjà cette équipe ce qu'on appelle l'équipe d'organisation, on va dire, c'est déjà, comme je disais, international, avec des gens au Canada. On a même un Français en Australie. Donc on a vraiment des gens assez bien répartis sur la planète. Et on trouve aussi sur le site ce qu'on a appelé... Donc ça, c'est la partie francophone, en fait, de la communauté. C'est le cœur de la communauté. Et on a aussi souhaité mettre en avant ce qu'on appelle les ambassadeurs AOS. Donc c'est des gens qui, pour le coup, sont pas francophones, mais qui ont un peu le même rôle que nous, ou la même activité que nous, de création d'événements, de partage d'informations dans leur pays et dans leurs contrées respectives.
D'accord.
Et avec qui on tisse des liens et qu'on invite sur nos événements régulièrement et qui nous invitent sur leurs événements. Donc voilà, donc un seul lien à retenir s'il n'y en a qu'un, c'est http://aos.community. Après, l'autre, on a évidemment une activité très régulière sur les différents réseaux sociaux. Les principaux, on les trouve sur le site. Hein, donc il y a une icône sur les principaux réseaux sociaux sur lesquels on travaille. Mmh. Alors, je vais en citer quelques-uns. Hein. Bien sûr, il y a les classiques. Il y a Facebook, Twitter. Donc, on a un groupe sur Facebook. On a un Twitter. Google Plus, un petit peu moins. Franchement, on l'a mis parce que voilà, faut le mettre. Mais ça aide au référencement, paraît-il.
Mais je savais pas que ça existait encore, mais.
Ouais, c'est de loin un de ceux où on est le moins actif. Par contre, donc là, c'est plus des groupes, donc Twitter, on va dire Twitter, Facebook, c'est plus vraiment de l'échange, voire passer des news, éventuellement répondre ou poster vous-même des news si vous avez des nouveautés à partager avec nous. Par contre, si on veut aller un peu plus loin dans le contenu, dans le travail, il y a deux sites qui sont aussi très intéressants, c'est docs.com, donc on a un site communauté AOS sur docs.com, donc qui est l'espace Microsoft où on peut partager de manière très très sympathique des documents. Donc évidemment, on va partager là tous nos PowerPoints, par exemple des présentations des différents événements qu'on anime, mais aussi on peut pointer vers des vidéos, pointer vers des sites externes. Donc c'est très riche. Donc si vous cherchez vraiment du contenu autour de ces sujets-là, je vous invite à aller sur docs.com et chercher communauté AOS. On a pas mal de contenu maintenant après 6 mois d'activité. Et l'autre espace intéressant en termes vraiment de contenu, c'est la partie Yammer. Donc on a un espace d'échange Yammer, donc qui fonctionne évidemment plus là en mode news group, où les gens publient voilà des bonnes pratiques, des questions ou du contenu intéressant qu'ils souhaitent partager avec donc là c'est pareil, il y a un Yammer assez animé, je dirais, où il y a pas mal de gens qui échangent autour de la communauté AOS. Et c'est là où ça prend tout son sens, c'est que voilà, on a tous notre biais, notre vision, soit par la façon dont tu l'utilises chez nos clients, soit par est-ce qu'on est plus développeur, est-ce qu'on est plus IT pro, est-ce qu'on est plus power user. Et le fait de partager tous ensemble, bah, ça donne des éclairages nouveaux, des visions nouvelles. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, je trouve, d'échanger autour de ces communautés. À ce sujet-là, il y a une citation qui m'a marqué. En fait, c'est une interview du PDG d'Accenture qui disait sur ces technos-là aujourd'hui. Alors, c'était pas les technos spécifiquement Office 365, hein, ça allait au-delà. C'est les technologies de digitalisation, on va dire, de l'entreprise. Donc, que ce soit le cloud, enfin tout ce qui passe par le cloud. Il disait, même une boîte comme Accenture, il disait, on ne peut plus en fait être au courant de tout, tout seul, dans son coin, quoi. Donc, ce n'est que par le partage que l'on arrive à avoir une vision, à avoir des retours d'expérience, à avoir des informations qui sont un peu globalisées, quoi, je dirais. Et c'est aussi le sens qu'on donne à notre communauté, c'est vraiment voilà, partager au maximum les expériences et les infos qu'on peut avoir sur ces produits qui sont très riches, qui évoluent tout le temps et qui apportent quand même, on sent bien, qui ont le potentiel en tout cas d'apporter beaucoup de valeur en entreprise. C'est ce point-là que je voulais okay. mettre en avant pour finir.
Bah écoute, je pense que si les auditeurs ne connaissaient pas la communauté, ils ont été convaincus.
Voilà.
Tu Merci. Risques d'avoir beaucoup de monde le 6 septembre
à Aix-en-Provence. Ce sera grand plaisir. Donc 6 septembre, Aix-en-Provence.
Donc ruez-vous sur Eventbrite ou meetup.com.
Voilà. Pour ce qu'on n'a pas précisé, c'est assez naturel, mais ça vaut le coup de le préciser comme toujours. C'est des événements gratuits, donc il suffit juste... de vous inscrire malgré tout pour qu'on dimensionne voilà un peu les salles et les événements en fonction des gens qui prévoient de venir, mais c'est des événements évidemment totalement gratuits, donc ça a aussi une valeur quand même intéressante de pouvoir venir partager avec des experts et d'écouter voilà, c'est un certain nombre de conférences, et si vous avez des questions, des remarques, on est bien sûr à votre disposition pour creuser chaque sujet qu'il mérite de manière plus approfondie.
Ok, eh ben écoute Patrick, je te remercie beaucoup de toutes ces informations, de cet enthousiasme sur une communauté qui fait partie des plus actives que je connaisse.
Ouais, ben merci beaucoup à toi.
On va se retrouver très bientôt à plein d'événements communs. Je donne rendez-vous. Bah, déjà, je te souhaite peut-être de bonnes vacances. Je sais pas.
Voilà, si ça s'applique. Exactement, les vacances se profilent et voilà. Vont nous faire du bien pour repartir. Avec plein de pêche pour la rentrée, tout à fait.
Exactement, donc bonnes vacances à tous ceux qui en prennent, et puis on se retrouve très bientôt, et merci beaucoup, salut Patrick, bonne soirée.
Merci beaucoup, bonnes vacances à tous. Au revoir.